Alors bonjour à tous. Alors j'ai souhaité partager aujourd'hui avec vous ma réflexion sur deux adjectifs qui caractérisent notre bien-aimé Seigneur Jésus. Alors nous lirons la fin du chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce passage que nous avons lu et entendu citer plusieurs centaines de fois, sûrement, mais revenu à l'esprit souvent ces derniers temps, en opposition au discours et à la pratique qui gouvernent notre monde. Je me suis souvenu, en totale contradiction avec ce constat, de cette parole du prophète Michée, qui a servi de référence au défi Michée, une initiative chrétienne pour promouvoir plus de justice. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors il a fallu attendre les circonstances dramatiques dues à la pandémie mondiale pour voir certains des puissants en charge des nations revenir à un discours plus humble. Pour certains d'entre eux, reconnaissant qu'ils ne savaient pas et que la science aussi ne savait pas tout. Nous constatons que l'humilité n'est pas un argument marketing politique. Le Fils de Dieu, créateur de toutes choses, parfaite révélation du Dieu d'éternité, s'adressant en prière à son Père, va se définir à destination de ses disciples comme doux et humble de cœur. Ce ne sont pas les caractères que l'on met en avant pour la réussite, entre guillemets, dans la préparation à la compétition qu'est la vie tant personnelle que professionnelle de nos jours. Je ne crois pas que beaucoup de candidats ajoutent sur leur curriculum vitae ces traits de caractère. Il faut être un winner, un gagnant, un killer même, un tueur même, si c'est au prix de dégâts collatéraux importants. Mais quelle est pour nous, disciples de Christ, l'attente de notre Maître et modèle, car nous sommes appelés par Jésus lui-même dans le passage que nous avons lu de l'évangile de Matthieu à apprendre de lui. La version Darby traduit « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes ». Alors plusieurs adjectifs sont utilisés suivant les versions pour définir ces qualités de la personne de Christ. La douceur associée à l'humilité, pour la traduction second ou semeur, ou la débonnaireté et l'humilité pour la version Darby. Je ne peux m'empêcher de relier ces traits du caractère de notre Seigneur vu par les contemporains de son humanité avec la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus, lors de sa lecture dans la synagogue de Nazareth, choisit un autre passage du livre du prophète Ésaïe, chapitre 61. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Un message sûrement plus positif à destination de ses auditeurs. Mais nous comprenons bien que le peuple a bien été comme ce que nous dit Ésaïe dans le chapitre 53. Essayons de définir ces traits de notre Seigneur si éloignés des standards attendus des hommes de pouvoir, de ceux qui dirigent le monde selon les normes humaines. La débonnaireté est souvent assimilée à de la mollesse ou à de la faiblesse de caractère. Le mot douceur est moins connoté de manière péjorative. Mais il s'agit bien ici d'une qualité spirituelle qui n'a rien à voir avec la faiblesse d'un individu bonasse et fuyant les conflits. En Jésus-Christ, nous avons la puissance du Dieu créateur incarné, mise au service de l'humanité par la guérison des malades, la délivrance du pouvoir des démons et même la résurrection des morts. Mais dans la plus grande humilité et douceur, les disciples qui sont investis d'une part de cette puissance pour prêcher le royaume de Dieu, chasser les démons et guérir les malades, comme nous le lisons dans le chapitre 9 de l'évangile de Luc, n'ont pas encore été régénérés dans leur comportement par l'Esprit Saint. Dans ce même chapitre, nous les trouvons discutant entre eux pour savoir qui serait le plus grand. Jésus va les reprendre par l'exemple du petit enfant et cette phrase « Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Bonne leçon sur l'humilité, secret de la vraie grandeur. Mais toujours dans le même chapitre, devant le refus d'un village d'accueillir Jésus et ses disciples, Jacques et Jean proposent à Jésus d'imiter le prophète Élie et de faire tomber le feu du ciel et consumer ainsi ses habitants peu hospitaliers. Deuxième leçon pour ses disciples, de quel esprit êtes-vous animés ? Je suis venu pour sauver les âmes des hommes et non pour les détruire, rectifie leur maître. Le cheminement spirituel vers un cœur humble et doux pour les disciples est encore long. Ces qualités de notre Seigneur et Sauveur vont être un obstacle à sa reconnaissance comme Messie et à son acceptation comme envoyé par Dieu pour le salut du peuple élu. Dans la bénédiction du vieux Siméon, quand le vieux Siméon la prononce, quand il rencontre Joseph et Marie, l'enfant Jésus âgé de 8 jours dans le temple, il ne manque pas de prononcer cet avertissement prophétique. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il n'est pas étonnant que l'attente d'un Messie libérateur et glorieux n'ait obscurci l'entendement des contemporains de Jésus. Leur attente se révèle peu compatible avec celui qui chemine humblement au milieu d'eux. Même Jean le baptiseur, celui qui a été envoyé pour préparer les cœurs à la venue du Sauveur, dont Jésus dira qu'il est le plus grand prophète né de femme, envoie ses disciples demander « Est-ce celui qui devait, es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Les deux disciples auxquels Jésus se joint sur le chemin d'Emmaüs après sa résurrection, même s'ils reconnaissent la puissance agissante de Jésus, sont dans la tristesse d'un espoir déçu. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que cela est arrivé. Grande fut leur joie quand ils ont réalisé qui était leur compagnon de route et celui qui leur a ouvert les yeux, ce Messie ressuscité qui leur parle de ses souffrances précédant sa gloire. Nous pouvons conclure que toute l'humanité de notre Seigneur est marquée par l'humilité. Nous comprenons qu'étant appelés à ressembler à notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, ce changement de nature nous concerne au même titre que les disciples. Lisons ce que Jésus enseigne dans les Béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La version Semeur traduit ce dernier verset par « Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux ». Voilà une liste de bénédictions et aussi une exhortation que nous connaissons tous. Mais comment est-ce que je me l'approprie ? Jésus, dans ses béatitudes, comme nous les appelons, reprend les paroles du roi David qui a écrit le psaume 37. Il met en contraste le juste ou le méchant ou l'impie. Le verset 11 est traduit par la version Semeur, « Mais ceux qui sont humbles auront le pays pour possession. » Ce caractère d'humilité est associé à la bénédiction et à la protection divine dans d'autres psaumes. Nous trouvons cela dans le psaume 149 au verset 4. « Car l'Éternel prend plaisir en son peuple et il accorde aux humbles le salut pour parure. » Cette exhortation à l'humilité est aussi bien présente dans les écrits apostoliques destinés à l'Église naissante. Jacques le met en avant en prenant un verset du Proverbe 34. « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Paul va aussi inviter les destinataires de ses enseignements à pratiquer ce trait de caractère. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Un peu plus loin, dans ce même chapitre 12 de son épître aux Romains, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Dans sa lettre aux Philippiens, il les invite à « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Un peu plus loin, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Et laissons l'apôtre nous inviter à y associer cette autre qualité de notre Seigneur. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Elle se trouve associée à d'autres comme étant le fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Il exhorte les Colossiens en ces termes, chapitre 3, verset 12. « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. » L'humilité se trouve aussi associée à la douceur comme une qualité caractérisant les enfants de Dieu, choisis et aimés de lui. Exhortation récurrente adressée aux Éphésiens au chapitre 4. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Alors, comment est-ce que je mets en pratique ces exhortations dans ma vie de tous les jours? Question. Le monde dans lequel vivaient les destinataires des lettres apostoliques était sûrement différent du nôtre par bien des aspects, mais la nature humaine, par contre, n'a guère changé. Ce qui a changé, c'est la masse d'informations, plutôt le flot, devrais-je dire, d'images, de données diverses, pour la plupart négatives, qui inondent notre quotidien. Nous vivons dans ce monde et j'ai bien conscience de la difficulté à s'extraire d'un système où tout va très vite et où tout est fait pour que nous soyons submergés, passifs et quelque part imprégnés par l'esprit de ce monde qui a choisi de rejeter le seul qui, ayant revêtu la forme d'un homme, n'en restait pas moins le Dieu porteur d'amour et de paix. La dernière décennie a vu l'explosion d'une forme de communication affranchie de toute limite, où chacun peut, via les progrès de la technique et les réseaux dits sociaux, se mettre en scène, livrer son ressenti, sa vie sous tous ses aspects, même les plus intimes, et parfois sa haine sans aucune retenue, dans une surenchère narcissique, à des millions d'inconnus rebaptisés « followers ». Même les puissants de ce monde utilisent ces outils pour atteindre et orienter une grande foule de gens n'ayant plus le temps de la réflexion en jouant sur leurs peurs, leurs ressentis et leurs émotions. La violence qui a toujours existé, nous en trouvons de nombreux récits dans l'Ancien Testament, a vu la banalisation de sa diffusion vu la puissance des médias modernes au travers des écrans qui nous bombardent d'images. Nous nous habituons sûrement petit à petit au spectacle de la cruauté, les perversions humaines les plus ignobles, ce poison distillé à nos enfants dès leur plus jeune âge, si nous n'y prêtons garde, les intoxique, et nous aussi, même si nous nous en défendons. Les images sont de puissants leviers pour toucher et manipuler le domaine des émotions, pour nous amener à une réaction qui peut être du domaine de l'empathie dirigée. Je vais prendre un simple exemple pour illustrer ce propos. Je suis persuadé que si je vous rappelle l'image de ce petit garçon retrouvé mort sur une plage de Turquie, pauvre petite victime d'une immigration forcée de Syriens fuyant la guerre dans leur pays, vous vous en souvenez tous. Mais que reste-t-il de la réaction d'empathie suscitée par cette image tragique? Bien des enfants se noient aujourd'hui encore, mais les médias ont d'autres sujets à nous proposer. Les migrants sont oubliés du grand public. Alors attention à ne pas nous laisser contaminer par ces médias reflets du constat de l'état de mal, de péché qui caractérise l'humanité loin de Dieu. Je dois constamment veiller à ma conduite pour rester dans cette douceur et cette humilité qui sont les caractères du disciple qui veut ressembler à son maître. Il y a encore du travail. Pour moi, je le dis. Pour moi et pour nous tous ici, le défi quotidien est de nous placer sous cette exhortation de l'apôtre que l'on peut intégrer dans cette nouvelle épître lauriolée. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quel beau projet pour notre communauté, que l'Esprit Saint puisse me le rappeler chaque jour.